18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Va-t-on échapper à un reconfinement strict ? A priori oui, en tout cas pour l'instant.
L'exécutif penche plutôt pour une généralisation du couvre-feu pour tous à 18h, auquel pourrait s'ajouter, tenez-vous bien, un confinement le week-end.
Conseil de défense en tout cas demain, annonce jeudi et les différentes pistes donc dans un instant avec Mickaël Darmon.
La progression du variant britannique scrutée de près à Cholet, les autorités sanitaires ont réussi à stopper un mini-cluster, un exemple à suivre.
Le syndicat des EHPAD privés voudrait que la logistique de vaccination mise en place pour les résidents puissent profiter aussi aux salariés de ces établissements, également aux animateurs, voire aux familles.
Deux ans après, on entendra le désarroi et la colère des victimes de l'explosion de la rue de Trévise à Paris. Elles se sentent oubliées.
On reviendra aussi sur cette info Europe 1. Une dizaine de militants pro-euthanasie interpellés pour trafic de pentobarbital. C'est un puissant anesthésiant interdit en France, mais utilisé pour l'aide au suicide.
Et puis négociation en cours sur le salaire des footballeurs. Tiens, alors que les clubs sont exsangues et que la masse salariale pèse pour plus de la moitié des coûts.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en léger repli, moins 0,20% à 5 650 points.
Et voilà le retour de la neige, ma chère Anissa, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Avec dès maintenant et jusqu'à demain soir, deux départements des Alpes placés en vigilance orange, neige et verglas. De fortes chutes de neige sont attendues demain dans l'après-midi. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À l'heure où nos voisins durcissent leurs mesures, allons-nous, nous aussi, vers un nouveau tour de vis ? C'est la question que tous les Français se posent aujourd'hui.
Alors que les compteurs s'affolent, que la progression du variant britannique inquiète, branle-bas de combat au gouvernement avec ce nouveau conseil de défense, donc demain.
Bonsoir Mickaël Darmon.
Bonsoir.
Quelles sont les pistes sur la table, Mickaël ?
Alors écoutez, selon nos dernières vérifications il y a 30 minutes, le front n'est pas stabilisé, hein, comme on dit, dans les coulisses de l'exécutif. Plusieurs hypothèses sur la table. La première, c'est étendre le couvre-feu selon les zones critiques, comme on l'a vu la semaine dernière. C'est un peu la formule du cas par cas. Ensuite, il y a la formule du couvre-feu pour tous sur l'ensemble du territoire à 18h et est aussi examinée l'extension du couvre-feu pour tous à 18h, doublée d'un confinement le week-end. C'est le chef de l'État qui devra donc arbitrer demain lors du Conseil de défense, mais au sommet du gouvernement, on a bien un esprit qu'il s'agit de mesures de freinage qui pourraient être suivies parfois d'autres plus restrictives. Jean Castex, en tout cas, l'a dit ce matin aux députés, il semble que les Français se soient bien comportés durant le réveillon du 31 décembre. On n'assiste pas à une explosion des contaminations, même si le plateau est haut.
Mickaël, ce qui inquiète beaucoup, ce sont les remontées de terrain des élus.
Et oui, et c'est ce qui peut faire pencher la balance vers des décisions plus dures. C'est la crainte de cette troisième vague liée à la propagation du virus variant très véloce. Les services du gouvernement ont des remontées de plusieurs élus qui signalent des foyers du variant dans les EHPAD et les écoles. Alors, qui annoncera les décisions ? Là aussi, c'est en cours de réflexion, comme le confie une source gouvernementale. Selon qu'il s'agit de Jean Castex ou d'Emmanuel Macron, on comprendra si le tour de vis est léger ou plus sévère.
Merci Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1.
Et une lueur d'espoir en tout cas, vous connaissez le triptyque, tracé, testé, isolé. Eh bien la ville de Cholet dans le Maine-et-Loire a suivi la procédure à la lettre et réussi à contenir un foyer du variant britannique, Charles Guyard.
Oui, et tout est allé très vite. Lorsqu'une femme de 70 ans est admise à l'unité Covid de l'hôpital de Cholet le 29 décembre, son cas est immédiatement pris très au sérieux et pour cause. Dans sa maison, elle s'est isolée avec une partie de la famille venue d'Angleterre pour fêter Noël. Or, trois membres ont été testés positifs à leur arrivée en France le 21 décembre. Pierre Volo, directeur du centre hospitalier.
Il y avait effectivement ces cas contacts possibles avec une famille venant d'Angleterre. Donc toutes les précautions ont été prises à l'arrivée de cette patiente. La mesure supplémentaire qu'on a pu prendre, c'est le fait qu'elle a été en chambre seule d'emblée. Alors que quand on a des patients contaminés Covid+, à partir du moment où on sait qu'ils sont contaminés, on peut les mettre en chambre double sans problème, parce que de toute façon ils ne peuvent pas se contaminer, ils le sont déjà. Ce qui a pu être mis en place au centre hospitalier de Cholet nous permet, pour la gestion de cette situation, d'être effectivement serein. La situation est sous contrôle.
Depuis, il s'est avéré que les trois premiers cas positifs étaient bel et bien porteurs du variant anglais. Tous guéris, ils ont pu retourner chez eux, au Royaume-Uni. Pour la grand-mère, des analyses complémentaires ont été diligentée, mais dans l'attente des résultats, la septuagénaire a déjà pu regagner son domicile le 5 janvier, puisqu'elle était également guérie. Quant aux autres patients et personnels soignants de l'hôpital, 20 tests sont en cours d'analyse, mais l'établissement l'assure, à ce jour, aucun cluster n'y a été détecté.
Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest et à Marseille. L'autorité régionale de santé indique ce soir que le cluster Marseille est lié, là aussi, au variant anglais et maîtrisé et sous contrôle.
La vaccination des plus de 75 ans hors EHPAD débutera officiellement lundi prochain, mais la ville de Nancy a décidé décidé de devancer l'appel.
Oui, en raison de la multiplication de cas, cette vaccination sera possible dès demain à Nancy. Cela concerne potentiellement 19 000 personnes et on sera à Nancy dans le journal de 19h.
Pour ce qui est de la vaccination dans les EHPAD cette fois, on passe enfin à la vitesse supérieure.
Les EHPAD où moins de 30 000 résidents ont reçu jusqu'à présent la première dose. La ministre déléguée chargée de l'autonomie espère atteindre les 400 000 personnes vaccinées d'ici la fin de la semaine.
Oui, et on a atteint a priori 140 000 personnes vaccinées à l'heure où l'on se parle. Et si tout va bien, tous les résidents d'EHPAD qu'ils souhaitent seront vaccinés fin janvier.
Oui, certains établissements privés souhaiteraient aller encore plus vite et vacciner en même temps que les résidents, le personnel, les intervenants extérieurs et même les familles, pourquoi pas, comme l'explique Florence Arnaise-Momé. Elle est la déléguée générale du CINERPA qui représente les principales maisons de retraite privées.
On a dépensé des moyens pour organiser ces 3 à 4 jours de vaccination. C'est à notre sens extrêmement dommage, là aujourd'hui où on s'interroge de savoir où on va vacciner les gens, de ne pas profiter de ce plateau technique vaccinal que nous mettons en place dans les salles de restaurant. Vous le savez, hein, on transforme les salles entières en zone de vaccination avec justement une zone de repos pour avoir une surveillance de 30 minutes, une heure à la suite de la vaccination. Donc vraiment, on a un process vaccinal et une infrastructure qui le permet. Et au lieu de ça, on va vacciner 40, 50, 60 personnes là où on pourrait en vacciner 120. Profitons de l'infrastructure que nous avons mis en place pour doubler le nombre de vaccinés.
La directrice générale du CINERPA qui représente les principales maisons de retraite privées avec Anne Le Gall. Et notez qu'on aura sans doute bientôt 3 vaccins en Europe puisque l'Agence européenne des médicaments a reçu la demande d'autorisation pour le vaccin d'AstraZeneca Oxford. Moins cher, plus facile à stocker, déjà utilisé par les Britanniques. Décision attendue d'ici la fin du mois, l'Europe en a précommandé 300 000 doses.
Il est 18h07, la suite du journal. C'était il y a tout juste 2 ans. Une rupture de canalisation de gaz, on s'en souvient, rue de Trévise à Paris, entraînait une violente explosion et la mort de 4 personnes, dont 2 pompiers.
Également 66 blessés, certains grièvement, 400 sinistrés. 2 ans plus tard, plusieurs victimes se sont rassemblées aujourd'hui devant l'immeuble éventré. Chloé Triomphe, pour les rescapés, le cauchemar n'est toujours pas terminé.
Non, et il est même loin d'être terminé puisqu'au mieux l'immeuble encore éventré avec ses appartements ouverts à tous les vents sera réhabitable en 2023. Ce matin, devant le 6 rue de Trévise, les habitants émus étaient aussi dépités du retard pris par les indemnisations promises. Elisabeth habitait au 6e étage.
On plaide pour un fonds d'indemnisation, ce serait très important. Les victimes attendent, enfin, on est dans un vide, hein, quand on s'est retrouvé dans la rue. Nous, on avait nos manteaux parce qu'on partait en voyage. On partait à Lyon. Mais il y avait des tas de gens qui étaient en robe de chambre, comme ça, nus dans la rue. Enfin, je me rappelle votre maman, Pierre, hein, une vieille dame, là, de 90 ans, dans sa robe de chambre.
Elle a dû descendre l'échelle des pompiers toute seule, comme une grande, à 90 ans. Ça fait 57 ans qu'elle vivait là. Moi, je suis né dans cet immeuble. Elle est digne, elle fait preuve d'une dignité bouleversante pour moi et mon frère. Et c'est vrai qu'autour de nous, on a des gens pas très dignes.
En ligne de mire, la mairie de Paris, les habitants lui reprochent de repousser autant que possible sa responsabilité et la mise en place d'une indemnisation.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1, Julien Bugier.
18h08, restez avec nous dans un instant la suite du journal avec ce coup de filet étonnant chez des pros euthanasie. On vous explique tout.
Et puis le salaire des joueurs de foot sur la table alors que certains clubs sont au bord de la faillite.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite de votre journal 18h10 avec Isabelle Millet. C'est une info qu'Europe 1 vous révélait à la mi-journée, ce coup de filet chez les pro-euthanasie.
Une dizaine de militants ont été interpellés. Ils leur auraient reproché, Marion Dubreuil, d'avoir aidé leurs adhérents à se procurer un anesthésiant qui est interdit en France, du pentobarbital qui peut servir au suicide.
Oui, ils sont tous membres d'Ultime Liberté, une association qui se bat pour obtenir le droit de choisir sa mort. Ils ont plus de 60 ans, sont pour la plupart retraités de l'enseignement ou de profession médicale. Jusque-là, ils n'ont jamais eu de démêlés avec la justice. Ils sont actuellement en garde à vue, car ils pourraient avoir joué un rôle d'intermédiaire dans l'importation de pentobarbital interdit depuis 1996 en France, au profit d'une centaine d'acheteurs français identifiés en 2019. Un adhérent de l'association dénonce un acharnement de la justice.
On bénéficie quasiment de la même attention qu'un réseau de terroristes. Moi, je trouve ça complètement choquant, quoi. En même temps qu'adhérent et militant de l'association, moi, en aucun cas, je n'ai vu Ultime Liberté franchir le pas de donner des informations, encore moins de commander ou de commercialiser un produit. On n'est pas des fournisseurs d'adresses et on n'est pas des incitateurs non plus. Si l'association a bien eu un rôle, c'est de dire ne vous faites pas escroquer en allant sur Internet.
Tout l'enjeu est de déterminer si certains membres de l'association, et notamment la présidente, n'ont pas fait la publicité du pentobarbital, ce qui, dans le droit français, est l'équivalent d'une provocation au suicide, un délit puni de 3 ans de prison.
Merci Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Allez, on part aux États-Unis maintenant, où Donald Trump juge la procédure d'impeachment qui le vise totalement ridicule.
Et il estime que cette procédure cause une immense colère chez ses partisans. Donald Trump, qui s'est exprimé tout à l'heure devant les journalistes avant de s'envoler en hélicoptère vers la frontière mexicaine pour voir l'état d'avancement de son mur anti-migrant, dont il a fait, vous le savez, l'un des piliers de sa présidence. Le FBI a par ailleurs lancé aujourd'hui une alerte dans tout le pays, mettant en garde contre des manifestations armées qui pourraient viser les bâtiments publics, manifestations qui seraient initiées par des militants pro-Trump.
Les sports, avec cette réunion capitale qui s'est tenue aujourd'hui à la Ligue professionnelle de football.
Une réunion qui devait décider de l'avenir de certains clubs, dont la situation financière, vous le savez, est catastrophique en ce moment. Moins de droits télé, plus de spectateurs dans les stades. L'enjeu, Cyril de la Morinerie, c'était d'obtenir des joueurs qu'ils baissent leur salaire parce que ben, finalement, c'est la seule marge qui reste à ces clubs.
Oui, et pendant plus de 2 heures, une délégation de présidents de clubs a négocié avec les représentants des joueurs pour obtenir en effet une baisse générale des salaires. Une réunion constructive qui a débouché sur un accord de principe. L'Union des footballeurs professionnels invite dès maintenant tous les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 à faire un effort. De Neymar, qui gagne 36 millions d'euros par an au PSG, jusqu'à Moustapha Sangaré, qui gagne quelques milliers d'euros à Amiens. Le président du Stade de Reims et du Collège Ligue 1 est soulagé d'avoir été entendu.
Il manque juste, au moment où on se parle, 900 millions à l'économie du football français pour finir la saison. Donc fort de ce constat, tous les éléments vont être pris en compte, y compris des réductions de salaire dans un certain nombre de cas. Les réunions vont commencer dans les jours qui viennent au niveau des clubs, puisque les solutions seront à traiter club par club.
Voilà, les négociations vont se tenir, vous l'entendez, hein, c'est Jean-Pierre Caillot qui nous l'annonce dans chaque club. Les dirigeants vont proposer aux joueurs une baisse proportionnelle de leurs émoluments et s'ils sont fortement incités à le faire, ils pourront très bien refuser. Mais comme expliquait le président de la CA Ajaccio, Christian Lucas sur Europe 1, c'est dans leur intérêt car à ce rythme, sans rentrée financière, avec un mercato très calme, certains petits clubs vont se retrouver en cessation de paiement et les joueurs risquent alors de se retrouver tout bonnement au chômage.
À suivre donc, merci Cyril de la Morinerie.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres et à 19h pour le journal.